Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Deuxième partie, pages 62 à 69. 1914, année qui marque le début de la Grande Guerre. Drôle de nom. Comme s'il en existait des petites et qu'il puisse s'établir une hiérarchie entre l'horreur, la tristesse ou la peur. En tout cas, trop jeune pour se faire trouer la peau dans les tranchées boueuses, le père de Jean-Jacques, 17 ans, n'en sera pas moins déporté. Son village se trouve juste derrière la ligne de front, au nord de Compiègne, dans la zone occupée par l'armée allemande. En répression d'un attentat, l'occupant l'envoie parmi un groupe d'otages dans un camp en Alsace. Il en reviendra avec le désir irrépressible de revêtir l'uniforme et rejoindre le front. Il fêtera ses 20 ans au milieu des combats et des corps déchiquetés par l'éclat des obus. Il fêtera ses 20 ans baïonnette au canon, en courant jusqu'au bout de cette terre déchirée. Ce grand champ labouré, une tombe à ciel ouvert, où des soldats blessés exhalent un dernier souffle. Le jour meurt. Dans le ciel s'embrase le crépuscule. La boue se mêle au sang. L'odeur des lance-flammes et des chairs calcinées. Il brûlera ses 20 ans dans l'horreur des combats. Et quand s'achève cette peste meurtrière, son vacarme effrayant pour de longs jours encore refuse de se taire. Comment l'oublier? Il hante les mémoires. Dans ce village de Normandie, sans doute, parmi les rues qui serpentent, ses toits d'ardoise, les maisons à colombages, là où s'installe le père de Jean-Jacques, les balles ne siffle plus aux oreilles dans cet endroit paisible. La crainte s'estompe. Il devient possible de reprendre goût à la vie, de penser au lendemain, et pousser cette porte qui fait retentir la clochette d'un salon de coiffure. Suprême luxe pour qui sort des tranchées. Un signe d'apaisement, d'autant plus agréable qu'il rencontre la fille du coiffeur. Ils auront 4 enfants, dont Jean-Jacques, l'unique garçon, naîtra en 1931. 12 années plus tard, un mercredi du mois de mars 1943, le petit garçon, debout sur le bord du trottoir, demeurait immobile, les bras ballants, comme une marionnette désarticulée et sans vie, le visage inondé de larmes. La carrosserie noire d'une voiture qui s'éloigne emmenait son père classifié Nacht und Nebel pour un ultime voyage. Nacht und Nebel. Nuit et brouillard. 3 mots tirés d'une scène de l'opéra de Wagner, L'Or du Rhin. Une directive du 7 décembre 1941 ordonnait de déporter les ennemis et opposants du Reich en les faisant disparaître sans laisser de traces dans le plus absolu secret. Dans le théâtre de son histoire, l'humanité, flanquée d'une chronique amnésie, réanime sans relâche ses pires cauchemars. Sous la cendre, la braise couve toujours. Pour en fixer l'image sur la pellicule, le cinéaste Alain Resnais a réalisé en 1955 un documentaire de 32 minutes, Nuit et brouillard, qui s'accompagne d'un texte de Jean Cayrol. En voix off, le narrateur commente « Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe, même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances, avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Le Struthof, Ornienburg, Auschwitz, Neuengamme, Belsen, Ravensbrück, Dachau, Montausen furent des noms comme les autres sur des cartes et des guides. Le sang a caillé, les bouches se sont tues, les blocs ne sont plus visités que par une caméra. Une drôle d'herbe a poussé et recouvert la terre, usée par le piétinement des concentrationnaires. Le courant ne passe plus dans les fils électriques, plus aucun pas que le nôtre. Au moment où je vous parle, l'eau froide des marais remplit le creux des charniers. Une eau froide et opaque, comme notre mauvaise mémoire. La guerre s'est assoupie, un œil toujours ouvert. L'herbe fidèle est venue à nouveau sur les Appelplatz, autour des blocs. Un village abandonné, encore plein de menaces. Le crématoire est hors d'usage. Les ruses nazies sont démodées. 9 millions de morts hantent ce paysage. Qui de nous veille de cet étrange observatoire pour nous avertir de la venue des nouveaux bourreaux? Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre? Quelque part parmi nous, il reste des capots chanceux, des chefs récupérés, des dénonciateurs inconnus. Et il y a tous ceux qui n'y croyaient pas ou seulement de temps en temps. Il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les décombres, qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s'éloigne, comme si on guérissait de la peste concentrationnaire. Nous, qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps et d'un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous, et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin. Après la déportation de leur père, Odette, l'une des deux sœurs élevées par leur grand-mère, conduisit Jean-Jacques chez elle dans son foyer. Son compagnon, Gilbert, travaillait avec les Allemands, mais ce n'était que débrouillardise et combine pour traverser au mieux ces années de restriction. Par contre, la fin du conflit annonçait un avenir douteux pour les collabos. Les Allemands affrétèrent un train pour les expatrier en Allemagne. Enfin, ceux qui en étaient informés. Cet unique et seul espoir d'en sortir vivant, il valait mieux pour eux ne pas le louper, au risque de rencontrer dans la gare cette soif de vengeance qui livrait la foule aux vindictes meurtrières. Mais Jean-Jacques, Gilbert et Odette réussirent à se faufiler et prendre place dans un wagon où le temps leur parut long avant que le train ne s'ébranle et que s'éloigne la peur. Ils pérégrinèrent d'une ville allemande à l'autre jusqu'à l'usine où Gilbert trouva du travail. Mais les bombardements obligent Jean-Jacques à trouver asile ailleurs, au cœur de l'Allemagne, dans un centre d'accueil pour enfants réfugiés. Ils dormaient tous dans un même dortoir et pour se laver, une seule bassine d'eau. Jusqu'au jour où l'un des enfants tire Jean-Jacques par la manche en lui montrant du doigt un point de l'horizon. « Französisch, Französisch !» Un groupe d'anciens prisonniers avait pris place dans la remorque d'un tracteur que l'un d'eux conduisait pour revenir en France. En écoutant Jean-Jacques parler français, il lui propose de traverser la frontière. Il réfléchit un court instant et balaye ses doutes d'un revers de pensée. Il n'éprouvait aucune sympathie pour ces jeunes Allemands qu'il quitte sans regret, mis à part un seul ami, un Espagnol, dont il supposait que ses parents cherchaient aussi à se faire oublier. En agitant la main bien haut pour se dire adieu, ils se quittèrent dans un bruit assourdissant. Le massé Ferguson crachait sa fumée grise, épaisse et suffocante. Pied au plancher, le convoi accrochait l'asphalte sous l'œil résigné d'une Allemagne défaite. À la frontière, la Croix-Rouge les prend en charge. Les occupants de la remorque deviennent ceux d'un wagon de train. Ils roulent vers la capitale. À leur arrivée, une foule bruyante et joyeuse dansait sur les places et dans les rues. Jean-Jacques traverse Paris le 8 mai 1945. La France et les pays industrialisés d'après-guerre entrent dans une période de forte croissance économique et d'amélioration des conditions de vie. 30 années, de 1945 à 1975, qu'un livre de l'économiste Jean Fourastier analysera sous le titre « Les 30 Glorieuses ». Odette et Gilbert, désormais mariés, avaient quitté l'Allemagne et ses souvenirs sans honneur pour habiter Paris où Jean-Jacques les rejoint. Gilbert, ingénieur dans un bureau d'études dont une antenne se trouve en province, contribue à ce que Jean-Jacques y soit embauché. Il observe de sa fenêtre le manteau de neige qui habille les hauts sommets de roches grises autour de Grenoble. Jean-Jacques loue une chambre aménagée dans un grenier et se plaît dans cette ville que traversent les eaux changeantes de l'Isère. Au fil des rencontres, naissent des amitiés et le temps passe, ne laissant que peu de place à la solitude, jusqu'à ce que son oreille gauche le fasse tant souffrir qu'il se fait hospitaliser. Les soins durent 6 mois et la douleur intense impose des injections de morphine sous surveillance médicale, ce qui signifie une rapide diminution des quantités d'antalgiques pour éviter l'addiction. Un répit de courte durée. Il connut un calvaire et son oreille perdit une grande partie de sa capacité auditive. Pour grignoter ces longues heures d'attente qui se perdent dans les couloirs des hôpitaux et s'étirent dans une épaisse et lourde incertitude, il bouquine ce qui lui tombe sous la main. Des revues médicales, quelques hebdomadaires, beaucoup de magazines. Rien de passionnant. Le médecin passe le voir de temps à autre pour une consultation rapide. Les infirmières changent les pansements tous les jours et prennent sa tension, ce qui le distrait quelques minutes. Dans ce service hospitalier où les journées entrecoupées de soins s'allongeaient interminables, entre ennui et douleur, une aide-soignante prenait le temps de parler avec lui. Elle lui donne le journal d'une église pentecôtiste et lui fait découvrir un monde qu'il ne connaissait pas. À sa sortie d'hôpital, Jean-Jacques, par curiosité, rend visite à cette assemblée chrétienne, puis il y retourne à plusieurs reprises, jusqu'au jour où la prédication d'un ancien cuisinier le touche. Cet homme, ayant quitté les fourneaux pour fonder une église, parle du Seigneur avec un tel amour que Jean-Jacques, bouleversé, se convertit.